Chapitre 34. Il était déjà 10 heures du soir, et dans le salon d'Arjanoïe, Sipiagin, sa femme et Kalomeitsev jouaient aux cartes, lorsqu'un laquais entra, annonça l'arrivée d'un individu inconnu, un certain monsieur Paklin, qui désirait voir monsieur Sipiagin pour une affaire extrêmement pressée et de la plus haute importance. « Si tard ?» dit madame Sipiagin avec étonnement. « Comment ?» dit Sipiagin en fronçant son nez classique. « Comment dis-tu que s'appelle ce monsieur ?»«
Il a dit Paklin. »«
Paklin ?» s'écria Kalomeitsev. « Paklin, Solomin, de vrais noms ruraux, hein » ajouta-t-il en français. « Et tu dis, » reprit Sipiagin, en tournant vers le laquais son nez toujours froncé, « que c'est une affaire importante, pressée ?» Ce monsieur le dit.
« Hum, c'est quelque mendiant ou quelque intrigant, ou les deux à la fois, » glissa Kalomeitsev, « très probablement. Fais-le passer dans mon cabinet. »
Il se leva. « Pardon, ma bonne. En attendant, faites une partie d'écarté. Ou bien, attendez-moi, je reviens à l'instant. »
« Nous causerons, allez, » répondit Kalomeitsev.
Sipiagin, en entrant dans son cabinet, aperçut la pauvre petite figure chétive de Paklin, humblement collée au mur entre la porte et la fenêtre, et il éprouva aussitôt ce sentiment vraiment ministériel de hautaine pitié et de condescendance un peu dégoûtée qui est particulier au grand dignitaire pétersbourgeois. « Mon Dieu, quel air d'oisillon déplumé » pensa-t-il. Et il boite, je crois, par-dessus le marché. « Asseyez-vous, » dit-il tout haut, se servant de ses notes de baryton les plus affables, hochant d'un air bienveillant sa petite tête rejetée en arrière et s'asseyant avant son hôte. « Vous devez être fatigué du trajet. Asseyez-vous et expliquez-vous. Quelle est l'affaire si grave qui vous amène à une pareille heure ?»« Votre Excellence, » commença Paklin en s'asseyant tout doucement dans un fauteuil, « je me suis permis de me présenter chez vous. »« Attendez, attendez, » interrompit Sipiagin. « Ce n'est pas la première fois que je vous vois. Je n'oublie jamais un seul des visages que j'ai eu l'occasion de rencontrer. J'ai une excellente mémoire. Mais où donc vous ai-je rencontré ?»«
Vous ne vous trompez pas, Excellence. J'ai eu l'honneur de me rencontrer avec vous à Pétersbourg, chez un homme qui, depuis lors, malheureusement, a éveillé votre indignation. »
Sipiagin se leva brusquement de son fauteuil. « Chez Monsieur Nijdanov, je me souviens à présent. Ce n'est pas de sa part, j'espère, que vous venez.
Du tout, Votre Excellence. Au contraire, je... »
Sipiagin se rassit. « Et vous faites bien, car dans ce cas, je vous aurais prié de vous retirer immédiatement. Aucun médiateur ne peut être toléré entre moi et Monsieur Nijdanov. Monsieur Nijdanov m'a fait une de ces injures qui ne s'oublie pas. Je dédaigne la vengeance. » Mais je ne veux rien savoir ni de lui, ni de cette jeune fille, du reste plus dépravée d'esprit que de cœur. » Sipiagin répétait cette phrase-là pour la 30e fois au moins, depuis la fuite de Marianne, qui n'a pas craint d'abandonner le toit où on lui donnait asile pour devenir la maîtresse d'un vagabond sans naissance. Qu'il leur suffise que je les oublie. Sur ce dernier mot, il fit de la main un geste de bas en haut, comme s'il éloignait quelque chose. « Je les oublie, monsieur, » répéta-t-il. Votre Excellence, j'ai eu l'honneur de vous assurer que je ne venais pas du tout de leur part, quoique je puisse d'ailleurs faire savoir à Votre Excellence qu'ils sont déjà unis par les liens légitimes du mariage.
Bah, pensa-t-il, j'ai dit que je compterais les sornettes, voilà qui est fait, arrive que pourra. »
Sipiagin roula sa nuque, à droite et à gauche, sur le dossier de son fauteuil. « Cela ne m'intéresse pas le moins du monde, mon cher monsieur. » Un sot mariage de plus sur la terre, voilà tout. Mais dans tout cela, où donc est cette affaire tellement urgente à laquelle je dois le plaisir de votre visite ?«
Attends, maudit directeur de département, » pensa encore Paklin, « je vais t'apprendre à faire de tes manières, espèce de museau anglais. »
« Le frère de votre épouse, » dit-il tout haut, « M. Markelov, a été pris par des paysans qu'il essayait de soulever, et il est enfermé en ce moment dans le palais du gouverneur. »
Sipiagin bondit de nouveau. « Que dites-vous » balbutia-t-il,
non plus avec sa voix de baryton ministériel,
mais avec une espèce de misérable petit gloussement guttural.
« Je dis que votre beau-frère a été pris et qu'il est à la chaîne. À la première nouvelle, j'ai pris des chevaux et je suis venu vous avertir. J'ai pensé, en agissant ainsi, vous être de quelque utilité, ainsi qu'aux malheureux que vous pouvez sauver.
« Je vous suis très reconnaissant, » lui dit Sipiagin, avec son même petit gloussement,
et, frappant vivement avec la paume de la main sur un timbre en forme de champignon, il remplit toute la maison de son tintement métallique.
« Je vous suis très reconnaissant, » répéta-t-il d'un ton déjà plus ferme. « Mais, sachez-le, un homme qui n'a pas craint de fouler aux pieds toutes les lois divines et humaines, fût-il 100 fois mon parent, n'est pas pour moi un malheureux, c'est un criminel. »
Un laquais entra en courant dans le cabinet.
« Que désire monsieur ?»«
Une voiture, tout de suite, à 4 chevaux. Je pars pour la ville, Philippe et Stéphane m'accompagnent. »
Le laquais disparut.
« Oui, monsieur, » continua Sipiagin, « mon beau-frère est un criminel. Si je vais en ville, ce n'est pas pour le sauver, oh non.
Mais, excellence,
tels sont mes principes, mon cher monsieur, et je vous prie de ne pas m'importuner, de ne pas me fatiguer de vos objections. »
Sipiagin se mit à marcher de long en large dans son cabinet.
Paclin le regardait, les yeux écarquillés.
« Que diable, » pensa-t-il, « on parlait de toi comme d'un libéral, et tu es là comme un lion dévorant. »
La porte s'ouvrit toute grande, et ils virent entrer à pas pressés d'abord Valentine, puis Kalomeitsev qui la suivait.
« Qu'est-ce que cela veut dire, Boris? Tu as ordonné d'atteler? Tu vas à la ville? Qu'est-il arrivé ?»
Sipiagin s'approcha de sa femme, lui prit le bras droit entre le coude et le poignet.
« Il faut vous armer de courage, ma chère, » lui dit-il en français.
« Votre frère est arrêté. »«
Mon frère? Serge? Pourquoi donc ?»«
Il a prêché à des paysans des théories socialistes. »
Kalomeitsev poussa un gémissement plaintif.
« Oui, il leur prêchait la révolution. Il faisait de la propagande. Ces paysans l'ont saisi et livré. Maintenant, il est enfermé en ville. »
Oh, le malheureux fou!
Mais qui t'a dit? Monsieur que voilà, monsieur, comment donc, monsieur Konopatine vient de nous l'apprendre.
Valentine regarda Paclin qui s'inclina d'un air abattu.
Quelle maîtresse femme, pensa-t-il. Dans les moments les plus critiques, on le voit, notre Paclin restait sensible au charme de la beauté féminine.
Et tu veux aller à la ville si tard?
Je trouverai encore le gouverneur debout.
J'avais toujours prédit que cela finirait par là, s'écria Kalomeitsev.
Il ne pouvait en être autrement.
Mais quels braves gens que nos paysans russes, c'est merveilleux.
Pardon, madame, ajouta-t-il en français, c'est votre frère. Mais la vérité avant tout.
Voyons, sérieusement, est-ce que tu veux partir, Boris? Reprit Valentine.
Je parierais, continua Kalomeitsev, que l'autre aussi, ce petit précepteur, monsieur Nejdanov, est impliqué là-dedans. J'en mettrai la main au feu. Ils sont tous de la même clique.
On ne l'a pas arrêté, vous ne savez pas?
Sipiagin fit de nouveau le même geste, éloignant de la main.
Je n'en sais rien, et n'en veux rien savoir.
À propos, ajouta-t-il en s'adressant à sa femme, il paraît qu'ils sont mariés.
Qui te l'a dit, monsieur?
Elle regarda Paclin de nouveau, et cette fois en clignant un peu les yeux.
Lui-même.
En ce cas, s'exclama Kalomeitsev, il doit nécessairement savoir où ils sont.
Vous le savez où ils sont, vous le savez, hein? Hein? Vous le savez.
En parlant ainsi, il se balançait devant Paclin, à droite, à gauche, comme pour lui barrer le passage, bien que celui-ci ne fît nullement mine de vouloir s'enfuir.
Mais parlez donc, répondez, hein? Hein? Vous le savez, vous le savez.
Paclin, à la fin, sentit la moutarde lui monter au nez. Ses petits yeux brillèrent, il répondit d'un air vexé.
« Quand même, je le saurai, monsieur, je ne vous le dirai pas. »«
Oh, oh, oh !» fit Kalomeitsev.
« Vous entendez? Mais celui-là aussi doit être de la bande. »«
La voiture est prête !» cria un laquais en entrant. Sipiagin, d'un geste énergique et élégant, saisit son chapeau. Mais Valentine le supplia si instamment d'attendre au lendemain matin, elle lui présenta de si bonnes raisons, et que la nuit était tombée, et que tout le monde dormirait dans la ville, et que cela ne servirait qu'à lui détraquer les nerfs, et qu'il pouvait s'enrhumer, que Sipiakine, à la fin, se laissant convaincre, s'écria « Je me soumets ». Et d'un geste non moins élégant, mais nullement énergique, il replaça son chapeau sur la table. « Condez-t-elle la voiture ? » ordonna-t-il au laquais. « Mais qu'elle soit prête demain matin à 6 heures précises. Tu m'entends ? Va, attends, qu'on renvoie l'équipage de monsieur notre hôte. Qu'on paye le cocher, hein ? Vous avez dit quelque chose, monsieur Konopatine ? Je vous emmène avec moi demain matin, monsieur Konopatine. Vous dites, je n'ai pas entendu. Vous prenez de l'eau-de-vie, n'est-ce pas ? Donnez de l'eau-de-vie à monsieur Konopatine. Non ? Vous n'en prenez pas ? C'est différent. Féodor, conduis monsieur dans la chambre verte. Monsieur Konopatine n'y tint plus. Paklin ! S'écria-t-il d'une voix tonnante. Je m'appelle Paklin. Ah, oui, oui, c'est la même chose. Ça se tient, vous savez. Mais quelle voix vous avez avec votre apparence chétive. À demain, monsieur Paklin. Ai-je bien dit cette fois? Siméon, vous viendrez avec nous, ajouta-t-il en français en s'adressant à Kalomeitsev. Je crois bien. On amena Paklin dans la chambre verte et même on l'enferma. Pendant qu'il se couchait, il entendit la clé tourner à grand bruit dans la serrure anglaise. Il se dit force injure pour son idée de génie, et son sommeil fut des plus mauvais. Le lendemain matin, à 5h30, on vint le réveiller. On lui apporta du café. Pendant qu'il le prenait, un laquais, dont l'épaule était ornée d'aiguillettes bariolées, attendait, son plateau dans les mains, en se dandinant sur ses pieds, d'un air qui voulait dire « Dépêche-toi donc, les maîtres attendent ». Puis on le conduisit en bas. La voiture était déjà devant la porte, ainsi que la calèche de Kalomeitsev. Sipiagin apparut sur le perron, enveloppé dans un manteau de camelot à col arrondi. Personne ne portait plus de manteau de ce genre depuis fort longtemps, à l'exception d'un très haut personnage auquel Sipiagin faisait la cour et qu'il s'efforçait d'imiter. Dans les occasions officielles et importantes, il ne manquait jamais de mettre ce manteau. Il salua Paklin d'un air assez aimable et, lui montrant d'un geste énergique les coussins de la voiture, il le pria de s'y asseoir. « Monsieur Paklin, vous venez avec moi, monsieur Paklin. Mettez sur le siège le sac de voyage de monsieur Paklin. J'emmène monsieur Paklin, disait-il en appuyant sur la lettre A du mot Paklin. « Ah, semblait-il vouloir dire, tu es affligé d'un pareil nom, et tu te fâches parce qu'on te le change. Tiens, mange-en, gorge-t'en, monsieur Paklin, Paklin. » Ce malheureux nom retentissait sans relâche dans l'air frais du matin. Cet air était si frais que Kalomeitsev, sorti à la suite de Sipiagin, fit plusieurs fois en français et qu'il s'enveloppa plus étroitement dans son manteau en se plaçant dans son élégante calèche découverte. Son pauvre ami, le prince Michel Obrenovitch de Serbie, en voyant cette calèche, s'en était acheté une toute pareille chez Binder. Vous savez, Binder, le grand carrossier des Champs-Élysées. Pendant ce temps, Valentine, en bonnet et en fichu de nuit, regardait à travers les volets entrebâillés. Sipiagin se mit en voiture et lui envoya un salut de la main. « Je vous recommande, mon frère, épargnez-le !» lui cria Valentine. « Soyez tranquille, » répondit Kalomeitsev, en lui jetant un regard assuré par-dessous le bord d'une casquette de voyage surmontée d'une cocarde, casquette quasi officielle qu'il avait imaginée lui-même, c'est surtout l'autre qu'il faut pincer. En route, répéta Sipiagin. Monsieur Paklin, vous n'avez pas froid. En route. Les équipages roulèrent. Pendant les 10 premières minutes, Sipiagin et Paklin gardèrent tous deux le silence. L'infortuné Silla, avec son piètre paletot et sa casquette fripée, avait l'air encore plus misérable sur le fond bleu sombre de la riche étoffe de soie dont la voiture était doublée. Il regardait silencieusement, et les frêles stores azurés qui s'enroulaient vivement quand on posait le doigt sur le ressort, et la chancelière en peau de mouton blanc et frisé où il mettait ses pieds, et le caisson en bois rouge incrusté dans la paroi intérieure, d'où sortait en se rabattant une planchette pour écrire et même un pupitre pour lire. Sipiagin aimait, ou plutôt voulait faire croire qu'il aimait à travailler en voiture comme M. Thiers pendant ses voyages. Paclin se sentait intimidé. Sipiagin le guigna à deux reprises du coin de l'œil, par-dessus le rebord de sa joue admirablement rasée, et, tirant de sa poche de côté avec une lenteur majestueuse un porte-cigare en argent richement orné d'un monogramme en caractère slavon, il lui offrit, oui, positivement, il lui offrit un cigare, qu'il tenait négligemment entre le second et le troisième doigt de sa main, protégé par un gant jaune de fabrique anglaise en peau de chien. Je ne fume pas, balbutia Paclin. Ah, répondit Sipiagin, et il alluma lui-même ce cigare, un délicieux régalia. Je dois vous dire, cher monsieur Paclin, dit-il d'un air poli, en lançant par petites bouffées des filets ondoyants de fumée odorante, que je vous suis réellement très obligé. Hier soir, j'ai pu vous paraître un peu tranchant, ce qui n'est pas dans mon caractère. C'était avec intention que Sipiagin coupait ainsi irrégulièrement ses phrases. J'ose vous l'affirmer. Mais, monsieur Paclin, mettez-vous un peu dans ma position. Sipiagin fit rouler son cigare dans l'autre coin de sa bouche. La situation que j'occupe me met, comment vous dire, en vue. Et voilà que tout à coup, le frère de ma femme se compromet. Et me compromet, moi aussi, de la façon la plus incroyable. Qu'en dites-vous, monsieur Paclin? Vous pensez peut-être que ce n'est pas une grosse affaire.
Je ne pense pas cela, votre Excellence.
Vous ne savez pas au juste pourquoi ni où on l'a arrêté. J'ai entendu dire que c'était dans le district de T. Qui est-ce qui vous l'a dit?
C'est un monsieur. Naturellement, ce n'est pas un oiseau. Mais quel est ce monsieur?
L'aide du gérant d'affaires de la chancellerie du gouverneur.
Comment s'appelle-t-il?
Le gérant?
Non, l'aide.
Il s'appelle Ulyashevitch. C'est un employé très consciencieux, votre Excellence. Aussitôt que j'ai eu appris cet événement, je me suis hâté d'aller vous voir.
Oui, oui, parfaitement. Et je vous répète que je vous en suis très reconnaissant.
Mais quelle folie! Car c'est de la folie, n'est-ce pas, monsieur Paclin? N'est-ce pas?
De la folie toute pure, s'écria Paclin, qui sentait la sueur glisser comme un serpent tiède et mince le long de son épine dorsale.
C'est ce qui s'appelle ne pas comprendre du tout notre paysan russe. Monsieur Markelov, autant que je peux le connaître, a un bon et un noble cœur, mais il n'a jamais rien compris au paysan russe.
Paclin jeta un coup d'œil en dessous à Sipiagin, qui s'était légèrement tourné vers lui et qui l'enveloppait d'un regard froid, mais pas hostile.
Ceux qui veulent exciter notre paysan à se soulever, ceux-là même ne peuvent y parvenir qu'en se servant de son attachement au pouvoir à la famille impériale. Il faut pour cela imaginer quelques légendes comme le faux Dimitri, montrer sur sa poitrine quelques marques impériales, obtenues à l'aide d'un gros copec à l'aigle chauffé au rouge.
Oui, oui, comme Pougatchev, interrompit Sipiagin, d'un ton qui voulait dire « Pas tant d'érudition, nous savons aussi notre histoire. »
Et, répétant de nouveau « C'est de la folie, c'est de la folie », il sembla s'enfoncer dans la contemplation du filet de fumée qui montait rapidement du bout de son cigare.
« Votre Excellence, dit Paclin, s'enhardissant un peu, je vous ai dit tout à l'heure que je ne fumais pas.
Mais ce n'est pas vrai, je fume. Et votre cigare répand un parfum si délicieux.
Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Dit Sipiagin, comme s'éveillant d'un profond sommeil.
Et, sans donner à Paclin le temps de répéter ce qu'il avait dit, preuve qu'il avait parfaitement entendu ses paroles et qu'il répétait ses questions uniquement par pause, il lui présenta son porte-cigare ouvert. Paclin, d'un air reconnaissant, alluma discrètement un cigare.
Voilà le moment favorable, je crois, pensa-t-il.
Mais Sipiagin le prévint.
« Vous m'avez aussi parlé, je crois, dit-il négligemment, avec de petites interruptions, en examinant son cigare, en bouffissant ses joues, en faisant voyager son chapeau de la nuque sur le front. Vous m'avez parlé, hein? Vous m'avez parlé de votre autre ami, celui qui s'est marié avec ma parente. Vous les avez vus? Ils se sont installés pas loin d'ici? »
« Eh, eh, pensa Paclin, si là, mon ami, attention.
Je ne les ai vus qu'une fois, votre Excellence. » Il demeure en effet pas extrêmement loin d'ici.
Naturellement, vous comprenez, reprit Sipiagin, en continuant son manège, comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux plus m'intéresser sérieusement ni à cette frivole jeune fille, ni à votre ami. Mon Dieu, je n'ai pas de préjugés. Mais convenez-en vous-même, c'est une affaire absurde, c'est trop bête. Du reste, dans ma conviction, ce qui les a réunis, c'est plutôt la politique. La politique, répéta-t-il en haussant les épaules, que tout autre sentiment. Je le crois aussi, Votre Excellence. Oui, M. Nejdanov était tout à fait rouge. Je dois lui rendre cette justice qu'il ne cachait pas ses opinions. Nejdanov, hasarda Paklin, s'est peut-être laissé entraîner. Mais son cœur est bon, interrompit Sipiagin, sans doute, comme chez Merkelov. Ces messieurs ont tous un très bon cœur. Probablement, lui aussi a pris part à cette affaire. Et lui aussi sera pincé. Il faudra intercéder aussi pour lui. Paklin pressa ses deux mains sur sa poitrine. Ah, oui, oui, Votre Excellence. Accordez-lui votre protection. Il mérite, je vous assure, il mérite votre sympathie. Fit Sipiagin. Vous pensez cela, vous? Enfin, si ce n'est pas pour lui, que ce soit pour votre nièce, pour sa femme. Mon Dieu, quelle blague je raconte, se dit Paklin encore une fois. Sipiagin cligna des yeux. Vous êtes un ami très dévoué, je vois ça. C'est très bien à vous, jeune homme. C'est très digne d'éloge. Ainsi donc, vous dites qu'ils vivent très près d'ici? Oui, Votre Excellence, dans un grand établissement. Paklin se mordit la langue. Tiens, tiens, tiens. Chez Solomine, c'est ça? Du reste, je le savais. On m'en avait parlé. Oui, oui, on me l'avait dit. Oui, Sipiagin l'ignorait absolument, et personne ne lui en avait soufflé mot. Mais comme il se rappelait la visite de Solomine, leurs entrevues nocturnes, il lança cet hameçon, et Paklin y mordit d'emblée. « Puisque vous le savez, commença-t-il, après quoi il s'arrêta et se mordit de nouveau la langue, mais trop tard. Un simple coup d'œil que lui jeta Sipiagin lui fit comprendre que pendant toute cette conversation, Sipiagin avait joué avec lui comme le chat avec la souris. « Du reste, Votre Excellence, balbutia le pauvre diable, je dois vous dire qu'à proprement parler, je ne sais rien du tout. »« Mais je ne vous demande rien. Comment donc? Que signifie ? « Pour qui nous prenez-vous tous deux ?» s'écria d'un air hautain Sipiagin, qui rentra brusquement dans toute sa morgue ministérielle. Et Paklin se sentit de nouveau tout humble, tout chétif, attrapé, muselé. Jusque-là, il avait fumé en tenant son cigare dans le coin de sa bouche opposé à Sipiagin, et il en rejetait la fumée tout doucement à la dérobée. À partir de ce moment-là, il le retira tout à fait de ses lèvres et cessa complètement de fumer. « Mon Dieu !» s'écria-t-il intérieurement, tandis qu'une sueur tiède coulait plus abondante sur ses membres. « Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai livré tout, et tous. On m'a mystifié, on m'a acheté au prix d'un bon cigare. Je suis un dénonciateur. Et comment remédier au mal à présent, Seigneur Dieu ?» Il n'était plus temps de remédier au mal. Sipiagin s'endormit d'un air digne et grave, comme un vrai ministre, enveloppé dans son manteau des grands jours. Du reste, un quart d'heure après, les deux équipages s'arrêtaient devant la maison du gouverneur. Chapitre 35. Le gouverneur de S était de la race de ces bonnes âmes de généraux insouciants et mondains qui ont la peau blanche, très soignée et très propre, et l'âme presque aussi propre que le corps, qui, bien né, bien élevé, bien pétri comme du bon pain de froment, n'ayant jamais pensé à devenir pasteur d'hommes, se trouvent être des administrateurs fort passables, qui, travaillant peu, soupirant constamment après Pétersbourg et faisant la cour aux jolies dames de province, sont d'une incontestable utilité pour leur gouvernement et laissent après eux un souvenir très convenable. Il venait de sauter du lit, vêtu d'une robe de chambre en soie, avec sa chemise de nuit déboutonnée, il se tenait assis devant son miroir de toilette et lavait, avec de l'eau de Cologne étendue d'eau, son visage et son cou, dont il avait préalablement ôté toute une collection d'images et de scapulaires, lorsqu'on vint lui annoncer que messieurs Sipiagin et Kalometsev se présentaient chez lui pour une affaire grave et urgente. Il connaissait intimement Sipiagin. Il était avec lui à tu et à toi depuis sa tendre enfance. il le rencontrait constamment dans les salons de Pétersbourg, et, depuis quelque temps, toutes les fois que ce nom de Sipiagin lui venait en tête, il y ajoutait invariablement un « ah » respectueux, comme à celui d'un futur dignitaire. Il connaissait un peu moins et estimait beaucoup moins Kalomeitsev, à propos duquel il recevait, depuis un certain temps, des plaintes d'une espèce désagréable. Mais il le regardait comme quelqu'un qui fera son chemin de façon ou d'autre. Il fit prier les visiteurs de passer dans son cabinet et les rejoignit aussitôt, toujours en robe de chambre. Il ne s'excusa même pas de les recevoir dans un déshabillé si peu officiel et leur secoua amicalement la main. Paklin n'avait pas suivi ces deux personnages dans le cabinet du gouverneur. Il attendait dans le salon. En descendant de voiture, il avait essayé de s'esquiver sous prétexte d'affaires qu'il appelait chez lui. Mais Sipiagin l'avait retenu avec une fermeté polie, pendant que Kalomeitsev, accourant tout effaré, chuchotait à l'oreille de son ami Boris « Ne le lâchez pas, tonnerre de tonnerre !» et l'avait fait monter avec lui. Toutefois, Sipiagin ne l'avait pas introduit dans le cabinet, et toujours avec la même fermeté polie, il l'avait prié de rester dans le salon en attendant qu'on l'appelât. Paklin, resté seul, eut de nouveau l'idée de s'esquiver, mais un solide gendarme, prévenu par Kalomeitsev, apparut à la porte. Paklin resta. « Tu devines sans doute ce qui m'amène, Voldemar ?» demanda Sipiagin au gouverneur. « Non, mon cher ami, je ne devine pas, » répondit l'aimable épicurien, pendant qu'un sourire affable arrondissait ses joues roses et découvrait ses dents éclatantes, à demi cachées par de soyeuses moustaches. « Comment, mais est-ce que Markelov ?»« Quel Markelov ?» répéta le gouverneur sans changer de visage. Il se souvenait très vaguement que l'individu qu'on avait arrêté la veille s'appelait Markelov, et il avait complètement oublié que Madame Sipiagin avait un frère de ce nom. « Mais pourquoi restes-tu debout, Boris ? » reprit-il. « Assieds-toi. Veux-tu lutter ?» Sipiagin avait bien autre chose en tête. Lorsqu'enfin il eut raconté l'affaire et expliqué pourquoi lui et Kalomeitsev venaient le voir, le gouverneur poussa une exclamation douloureuse. Il se frappa le front, et son visage prit une expression de chagrin sincère. « Oui, 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 » répéta-t-il, « quel malheur ! Il est encore ici aujourd'hui en attendant. Tu sais que nous ne gardons cela qu'une nuit. Seulement, le chef de la gendarmerie n'est pas en ville aujourd'hui. Voilà pourquoi ton beau-frère est encore ici. Mais demain, on l'expédiera. Mon Dieu, quelle affaire désagréable ! Ta femme doit être bien affectée. Que puis-je faire pour toi ? Je voudrais avoir une entrevue avec lui, chez toi, si la loi ne s'y oppose pas. « Comment donc, mon cher ami ? La loi n'a pas été écrite pour des gens comme toi. Je prends tant de part à ton chagrin, c'est affreux, tu sais. » Il sonna d'une façon particulière, un aide-de-camp parut. « Cher baron, je vous en prie, ayez la bonté. » Il lui dit ce qu'il fallait faire, le baron disparut. « Figure-toi, mon cher ami, que les paysans ont failli le tuer. Ils lui ont attaché les mains derrière le dos et marchent. Et lui, imagine-toi, il n'a pas l'air d'être en colère, ni de leur en vouloir, ma parole. Il est d'un calme. J'en ai été tout surpris. Du reste, tu vas le voir. C'est un fanatique tranquille. Ce sont les pires, dit sentencieusement Kalomeitsev. Le gouverneur le regarda en dessous. À propos, j'ai à causer avec vous, Siméon Petrovitch. Quoi donc ? Une mauvaise affaire. Mais quoi encore ? Vous savez, votre débiteur, ce paysan qui était venu porter plainte chez moi. Eh bien, il s'est pendu. Quand cela ? Peu importe le moment, mais c'est une mauvaise affaire. Kalomeitsev haussa les épaules et s'écarta du côté de la fenêtre avec un dandinement nonchalant. L'aide-de-camp rentra, accompagné de Markelov. Le gouverneur avait dit vrai. Markelov était extrêmement calme. L'air morose qui lui était habituel avait même disparu de son visage pour faire place à l'expression d'une sorte de fatigue indifférente. Son expression resta la même quand il aperçut son beau-frère. Pourtant, lorsqu'il eut jeté un regard rapide sur l'aide-de-camp allemand qu'il avait amené, on aurait pu voir briller dans ses yeux une dernière étincelle de la vieille haine que cette classe de gens lui inspirait. Son paletot était déchiré en deux endroits et négligemment recousu avec du gros fil. Sur le front, les sourcils et la racine du nez se voyaient les écorchures, des traces de sang coagulées. Il ne s'était pas lavé le visage, mais il avait peigné ses cheveux. Les deux mains profondément enfoncées dans ses manches, il s'était arrêté près de la porte. Il respirait régulièrement. « Serge !» lui dit Sipiagin d'une voix émue, en faisant deux pas vers lui et en tendant la main juste assez pour le toucher, ou pour l'arrêter s'il se portait en avant. « Serge, je ne suis pas venu ici pour t'exprimer notre surprise, notre profond chagrin, car tu n'en pouvais pas douter. Tu as voulu toi-même te perdre, et tu t'es perdu. Mais j'ai désiré te voir pour te dire, te faire, pour te donner la possibilité d'entendre la voix de la raison, de l'honneur et de l'amitié. Tu peux encore adoucir ton sort, et sois-en sûr, de mon côté, je ferai tout ce qui dépendra de moi. Tiens, voici l'honorable chef de notre gouvernement qui te confirmera ce que je te dis. » Ici, Sipiagin éleva la voix. « Repentir sincère de tes erreurs, aveu complet, sans restriction, qui seront portés à qui de droit. Votre Excellence, » dit tout à coup Markelov en se tournant vers le gouverneur, sa voix aussi était calme, quoiqu'un peu enrouée, « je supposais que vous aviez voulu me voir pour m'interroger de nouveau. Mais si vous ne m'avez appelé que sur le désir de M. Sipiagin, ordonnez, je vous prie, qu'on me ramène. Nous ne pouvons pas nous entendre. Tout ce qu'il me dit est du latin pour moi. » « Permettez, du latin !» intervint Kalomeitsev d'un ton aigre et glapissant. « Est-ce du latin aussi de soulever les paysans ? C'est du latin, dites, c'est du latin ?»« Votre Excellence, ce monsieur-là serait-il chez vous un employé de la police secrète ?»« Il a tant de zèle, » dit Markelov, pendant qu'un faible sourire de contentement passait sur ses lèvres pâlies. Kalomeitsev grinça des dents, frappa du pied. Le gouverneur l'arrêta. « C'est votre faute. Pourquoi vous mêlez d'une affaire qui ne vous touche pas ?»« Qui ne me touche pas, qui ne me touche pas. Il me semble que c'est notre affaire à tous, nous autres gentilshommes. » Markelov enveloppa Kalomeitsev d'un regard froid et lent. C'était comme le dernier regard qu'il lui adresserait jamais, puis se détourna légèrement du côté de Sipiagin. « Quant à vous, mon cher beau-frère, si vous voulez que je vous explique mes idées, les voici. » Je reconnais que les paysans avaient le droit de m'arrêter et de me livrer, puisque mes discours ne leur plaisaient pas. Ils étaient libres de le faire. C'est moi qui allais à eux, et non eux à moi. Et si le gouvernement m'envoie en Sibérie, je ne murmurerai pas, bien que je ne me croie nullement coupable. Le gouvernement fait son métier, il se défend. Cela vous suffit-il ? Sipiagin leva les mains au plafond. « Me suffit ! Quelle expression ! « La question n'est pas là, et ce n'est pas à nous de juger de ce que le gouvernement croira devoir faire. Mais je désire savoir si vous comprenez, si tu comprends, Serge, » Sipiagin attaquait la corde du sentiment, « l'inconséquence, la folie de cette tentative, si tu es prêt à faire preuve de repentir, et si je peux, jusqu'à un certain point, répondre pour toi, Serge. » Markelov fronça ses épais sourcils. « J'ai dit, et je n'ai pas envie de me répéter. » Mais le repentir, où est-il ? Markelov éclata brusquement. Ah, laissez-moi tranquille avec votre repentir. Vous voulez pénétrer dans le secret de mon âme ? Cela ne regarde que moi. Laissez-moi, s'il vous plaît. Sipiagin haussa les épaules. Tu es toujours le même. Tu ne veux pas entendre la voix de la raison. Tu aurais un moyen de te tirer d'affaire sans scandale, honorablement. Sans scandale, honorablement. Répéta Markelov d'un air sombre. Nous connaissons ces mots-là. On les emploie toujours quand on propose quelque bassesse. Voilà leur véritable signification à ces mots-là. Nous vous plaignons, dit Sipiagin, continuant à raisonner Markelov, et vous nous haïssez. Jolie pitié. Vous nous envoyez en Sibérie, en prison. Voilà comment vous nous plaignez. Ah, laissez-moi tranquille, au nom de Dieu. Et Markelov baissa la tête. Il était intérieurement tout bouleversé, malgré son apparence de calme. Ce qui le torturait, ce qui le rongeait plus que tout le reste, c'est qu'il avait été livré. Par qui ? Par Eremei de Galaplioc, par ce Eremei en qui il avait une si aveugle confiance. Que Mendeleï Doutik ne l'eût pas suivi, cela ne le surprenait pas au fond. Mendeleï était ivre, et par conséquent poltron. Mais Eremei... Eremei, qui était pour Markelov la personnification même du peuple russe, c'était celui-là qu'il avait livré. Ainsi donc, tous les efforts de Markelov avaient été sans but et sans raison. Ainsi, Kislyakov n'avait dit que des sottises. Ainsi, Vassili Nikolaïevitch n'avait ordonné que des absurdités. Ainsi, tous ces articles, ces brochures, ces ouvrages de socialistes, de penseurs, dont chaque ligne lui faisait l'effet de quelque chose d'évident et d'immuable, tout cela n'était qu'une mystification. Était-ce possible? Et cette superbe comparaison de l'abcès mûr qui attend un coup de lancette, cela aussi n'était que vaine parole? Non, non, murmurait-il en lui-même, pendant qu'une légère rougeur de brique courait sur ses joues bronzées. Non, tout cela est vrai, tout, et c'est ma faute à moi. Je n'ai pas dit, je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait. J'aurais dû simplement ordonner, et si quelqu'un avait résisté, lui loger une balle dans la tête, sans autre réflexion. Celui qui n'est pas avec nous n'a pas le droit de vivre. On tue bien les espions comme des chiens, et pis encore. Et Markelov revoyait dans son esprit les détails de son arrestation. D'abord un silence dans la foule des paysans, des clignements d'yeux, des cris dans les derniers rangs. Puis un paysan qui s'approche de côté, comme pour le saluer. Puis un tumulte soudain. Et lui, Markelov, soulevé, jeté par terre. « Camarade, camarade, que faites-vous ? » Et eux, « Vite, une ceinture, attache-le. » Puis le craquement de ses os, et la rage impuissante, une poussière fétide dans sa bouche et dans ses narines. « Renversez-le, renversez-le, dans la télègue !» Un gros rire éclate. « Fille, l'horreur !»« Je m'y suis mal pris. » Voilà ce qui le torturait, ce qui le rongeait. Qu'il fût tombé sous la roue, c'était un malheur purement personnel, qui n'avait aucun rapport avec l'œuvre commune. Cela pouvait encore se supporter. Mais Eremeï. Pendant que Markelov se tenait ainsi la tête penchée sur la poitrine, Sipiagin tira le gouverneur à l'écart et, lui parlant à demi-voix avec de petits gestes discrets, faisant un tri avec deux doigts sur son front comme pour dire « Vous savez, ce pauvre garçon, cela n'est pas sain chez lui. » Il s'efforçait d'éveiller chez le gouverneur, sinon la sympathie, au moins un peu de pitié pour cet insensé. Et le gouverneur haussait les épaules, tantôt levant les yeux, tantôt les fermant. Il regrettait sa propre impuissance, finissait par promettre quelque chose. Tous les égards, certainement tous les égards, grasseyait-il d'un air aimable, à travers ses moustaches parfumées. Pendant qu'il causait ainsi dans ce coin, Kalomeitsev avait grand-peine à rester en place. Il s'agitait, faisait claquer sa langue, toussait, bref, donnait toutes les marques de l'impatience. À la fin, il n'éteint plus, et, s'approchant de Sipiagin, il lui jeta rapidement en français à l'oreille « Vous oubliez l'autre !»« Ah oui !» répondit Sipiagin tout haut. « Merci de me l'avoir rappelé. »« Je dois porter le fait suivant à la connaissance de votre Excellence, » dit-il en s'adressant au gouverneur. Il employait cette formule avec son ami Voldemar pour éviter de compromettre le prestige de l'autorité en présence d'un insurgé. Des raisons positives me font supposer que la folle tentative de mon beau-frère doit avoir certaines ramifications, et que l'un de ces rameaux, en d'autres termes, que l'un des individus soupçonnés par moi, se trouve à peu de distance de cette ville. « Ordonne de faire entrer, » ajouta-t-il à demi-voix. « Il y a dans ton salon un individu, je te l'ai amené. » Le gouverneur regarda longuement Sipiagin, pensa avec admiration, « Quel homme !» et donna un ordre. Une minute après, le serviteur de Dieu, Sila Paklin, apparaissait en sa présence. Sila Paklin allait s'incliner très bas devant le gouverneur. Mais en apercevant Markelov, il n'acheva pas son salut et resta à demi courbé en tortillant sa casquette dans ses mains. Markelov jeta sur lui un regard distrait et ne le reconnut probablement pas, car il se replongea dans ses pensées. « C'est ça, le rameau ?» demanda le gouverneur, en allongeant vers Paklin son doigt fin et blanc, orné d'une turquoise. « Oh non !» répondit Sipiagin en riant un peu. « Pourtant, ajouta-t-il après réflexion, « Votre Excellence, reprit-il à haute voix, « vous avez devant vous un certain monsieur Paklin. Autant que je puis le savoir, il habite Pétersbourg, et il est l'ami intime d'un certain personnage qui a rempli chez moi l'office de professeur, et qui s'est enfui de ma maison en emmenant avec lui, je le redis avec la rougeur au front, une jeune fille, ma parente. « Ah, oui, oui, » marmotta le gouverneur en hochant la tête. « J'ai entendu parler de cela chez la comtesse. » Sipiaguine éleva la voix. « Le personnage dont je viens de parler est un certain monsieur Nejdanov, fortement soupçonné par moi d'idées et de théories perverses. » « Un rouge à tout craint !» ajouta Kalometsev. « D'idées et de théories perverses !» répéta Sipiaguine encore plus nettement. « Il est certainement mêlé à toute cette propagande. Et il se trouve, il se cache, m'a dit M. Paklin, dans la fabrique du marchand Faleyev. » Au mot « m'a dit M. Paklin », Markelov jeta un nouveau regard sur Paklin et se borna à sourire lentement avec indifférence. « Permettez, permettez, Votre Excellence !» s'écria Paklin. « Et vous aussi, M. Sipiaguin, je n'ai jamais, jamais !»« Tu dis chez le marchand Faleyev ?» demanda le gouverneur à Sipiaguin, en agitant légèrement sa main tendue dans la direction de Paklin, comme pour lui dire « Doucement, doucement, mon garçon, tu parleras après. » « Qu'est-ce donc qui leur prend, à nos commerçants, à ces vénérables barbus ? Hier encore, on en a arrêté un pour la même affaire. Tu connais peut-être son nom. Golouchkine, un Richard. Oh, ce n'est pas celui-là qui fera une révolution. Depuis hier, il n'a cessé de se traîner par terre à genoux. « Le marchand Faleyev n'est pour rien là-dedans, » dit Sipiaguine. « J'ignore absolument quelles sont ses opinions. Je voulais seulement parler de sa fabrique, où, d'après le dire de M. Paklin, se trouve en ce moment M. Nejdanov. « Je n'ai pas dit ça !» hurla de nouveau Paklin. « C'est vous qui l'avez dit !»« Permettez, M. Paklin, » répliqua Sipiaguine, avec la même impitoyable netteté d'intonation, « je respecte le sentiment d'amitié qui vous inspire ces dénégations. » « Oh, du Guizot tout pur !» pensa le gouverneur. « Mais je prendrai la liberté de vous citer mon exemple. Pensez-vous que le sentiment de la parenté ne soit pas aussi fort chez moi que chez vous celui de l'amitié ? Mais il y a un autre sentiment, mon cher monsieur, qui est encore plus fort, et qui doit guider toutes nos actions, le sentiment du devoir. »« Le sentiment du devoir !» traduisit Kalometsev en français. Markelov enveloppa d'un regard les deux orateurs. « Monsieur le gouverneur, dit-il, je répète ma demande. Ordonnez, je vous prie, qu'on m'emmène hors de la présence de ces deux bavards. » Mais ici, le gouverneur perdit un peu patience. « Monsieur Markelov, s'écria-t-il, je vous conseillerais, dans votre position, de tenir un peu mieux votre langue et de respecter davantage vos supérieurs, surtout quand ils expriment des sentiments patriotiques comme ceux que vous venez d'entendre sortir de la bouche de votre beau-frère. « Je me ferai une joie, mon cher Boris, » ajouta le gouverneur en s'adressant à Sipiaguine, « de porter ta noble conduite à la connaissance du ministre. Mais chez qui se trouve-t-il au juste, ce monsieur Nejdanov, dans cette fabrique ?» Sipiaguine fronça le sourcil. « Chez un certain monsieur Solomine, mécanicien en chef de la fabrique, à ce que m'a dit encore monsieur Paklin. » Sipiaguine semblait éprouver une jouissance particulière à tourmenter le pauvre Silla. Il se vengeait ainsi et du cigare qu'il lui avait offert en voiture, et de la politesse familière, intime, presque enjouée, qu'il lui avait témoignée. Et ce Solomine, ajouta Kalometsev, est un radical et un républicain avéré, et Votre Excellence ne ferait pas mal de tourner aussi son attention sur lui. « Vous connaissez ces messieurs, Solomine et comment donc, et Nejdanov ?» demanda le gouverneur à Markelov d'un ton presque officiel en nasillant. Markelov, les narines largement gonflées par une joie haineuse, lui répondit « Et vous, Excellence, vous connaissez Confucius et Tite-Live ?» Le gouverneur lui tourna le dos. « Il n'y a pas moyen de causer avec cet homme, » dit-il en haussant les épaules. « Monsieur le baron, voulez-vous vous approcher, je vous prie. » L'aide-de-camp s'avança vers lui, et Paklin profita de ce moment pour se glisser, trébuchant et clopinant, auprès de Sipiaguine. « Qu'est-ce que vous faites ? » balbutia-t-il. « Pourquoi perdez-vous votre nièce ? Vous savez bien qu'elle est avec lui, avec Nejdanov. »« Je ne perds absolument personne, mon cher monsieur, » répondit distinctement Sipiaguine. « Je fais ce que m'ordonne ma conscience et votre femme, ma sœur, qui vous tient sous sa pantoufle, » acheva Markelov du même ton. Sipiagin ne sourcilla pas. Tout cela était tellement au-dessous de lui. « Écoutez, » continua Paklin, de la même voix entrecoupée. Tout son cœur tremblait d'émotion et peut-être de crainte. Ses yeux brillaient de colère, il avait la gorge serrée par les larmes. Larmes de pitié pour eux et de dépit contre lui-même. « Écoutez, je vous ai dit qu'elle était mariée, ce n'est pas vrai. Je vous ai trompé, mais ce mariage doit se faire. Et si vous l'empêchez, si la police descend là-bas, vous aurez sur la conscience une tache que rien ne pourra jamais laver. Et vous, la nouvelle que vous me communiquez, interrompit Sipiagin en élevant encore la voix, si tant est qu'elle soit vraie, ce dont j'ai le droit de douter, cette nouvelle ne peut qu'accélérer les mesures que j'ai jugées nécessaires de prendre. Quant à la pureté de ma conscience, je vous prierai, mon cher monsieur, de n'en prendre aucun souci. »
Sa conscience, camarade, elle est vernie, interrompit de nouveau Markelov.
On y a passé de la laque de Pétersbourg. Rien ne peut y mordre. Quant à toi, monsieur Paklin, chuchote, chuchote, tant que tu voudras, tu ne déchuchoteras jamais.
Le gouverneur jugea convenable de mettre fin à tous ces discours.
Je pense, messieurs, dit-il, que vous vous êtes suffisamment expliqués. C'est pourquoi, cher baron, je vous prierai de reconduire monsieur Markelov. N'est-ce pas, Boris? Tu n'as plus besoin.
Sipiagin écarta les deux bras.
J'ai dit tout ce que je pouvais dire.
Très bien, cher baron.
L'adjudant s'approcha de Markelov, fit sonner ses éperons l'un contre l'autre, et décrivit avec sa main droite une ligne horizontale et brève qui voulait dire « S'il vous plaît, marchez ». Markelov fit un demi-tour et s'éloigna. Paklin, en pensée seulement, il est vrai, lui serra la main avec un sentiment d'amère sympathie et de pitié. « Et maintenant, nous allons lancer nos garçons sur la fabrique, » reprit le gouverneur. « Seulement, écoute, Boris, il me semble que ce monsieur, » il montra Paklin d'un mouvement du menton, « t'a raconté quelque chose à propos de ta nièce, qu'elle se trouvait là-bas, à cette fabrique. Et alors, il ne faut l'arrêter en aucun cas, » répondit Sipiagin d'un air profond. « Il est possible qu'elle réfléchisse et qu'elle revienne. Si tu le permets, je lui écrirai un petit mot. « Je t'en prie. Mais en somme, tu peux être tranquille. Nous coffrerons le quidam, nous sommes galants avec les dames. Et avec celle-là, donc. » « Mais vous ne prenez pas de mesures à propos de ce Solomine ?» s'écria douloureusement Kalometsev, qui avait tendu l'oreille pendant tout ce petit aparté pour en saisir quelques bribes. « Je vous assure que c'est lui qui est le principal organisateur de l'affaire. Pour ces choses-là, j'ai un flair, mais un flair. » « Pas trop de zèle, très cher Siméon Petrovitch, » répondit le gouverneur en souriant. « Souvenez-vous de Talleyrand. S'il y a quelque chose, celui-là ne nous échappera pas non plus. Mais pensez plutôt à votre... » Le gouverneur imita le râle d'un homme qui s'étrangle, « à votre débiteur. » « À propos, » reprit-il en se tournant de nouveau vers Sipiagin, « et ce gaillard-là ?» Il indiqua encore Paklin avec son menton. « Qu'en ferons-nous ? Il n'a pas l'air bien effrayant. »« Lâche-le, » dit Sipiagin tout bas, et il ajouta en allemand « Lass den Lumpen laufen, » laisse courir le plat-pied, s'imaginant on ne sait pourquoi qu'il faisait une citation du Goethe de Berlichingen de Goethe. « Vous pouvez partir, mon cher monsieur, » dit à haute voix le gouverneur. Nous n'avons plus besoin de vous. À l'avantage de vous revoir. » Paklin fit un salut qui s'adressait à tout le monde et sortit, brisé, anéanti. Bon Dieu, ce mépris l'avait achevé. Quoi, pensait-il avec un désespoir inexprimable, et poltron, et dénonciateur. Mais non, non, je suis un honnête homme, messieurs, et je ne manque pas tant que ça de courage. Mais quelle est cette figure connue qui se tient là sur le perron de la maison du gouverneur et qui lui jette un regard triste et plein de reproches? Mais c'est le vieux serviteur de Markelov. Il n'est venu en ville, évidemment, que pour suivre son maître. Et il ne quitte pas le seuil de la prison. Mais pourquoi regarde-t-il ainsi Paklin? Ce n'est pourtant pas lui, Paklin, qui a livré Markelov. Et pourquoi me suis-je fourré là où je n'avais que faire? Se disait Paklin, retombant dans sa rêverie désertée, « Pourquoi ne suis-je pas resté tranquillement dans mon trou ?» Et maintenant ils disent, et ils vont peut-être l'écrire, « Un certain monsieur Paklin a tout raconté. Il les a livrés. Il a livré ses amis à leurs ennemis. » Il se rappela alors le regard que Barkelov lui avait lancé, et ce terrible « Tu ne te déchuchoteras jamais », et les yeux tristes et mornes du vieillard. Et comme saint Pierre dans l'Évangile, il pleura amèrement. Et il se dirigea lentement vers l'Oasis, vers Fomushka, Fimushka et Snandouli.